Salut les marques, bienvenue dans Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch, une émission hebdomadaire dans laquelle on analysera Raw et on vous donnera notre avis d'experts totalement amateurs. Aujourd'hui, nous avons comme invité les deux chroniqueurs des Cahiers du Catch totalement célèbres, Yerem.
Salut à tous.
Et Giscal.
Salut tout le monde.
Je me suis pas présenté, donc je suis Hank. Sûrement la dernière personne qui a commencé à écrire au cahier du catch.
Le moins célèbre,
exactement. Voilà. On a pris le moins célèbre pour la tâche ingrate. Donc voilà, c'est le deuxième Raw après WrestleMania. Si vous vous demandez pourquoi on n'a pas fait une émission post-WrestleMania qui aurait été beaucoup plus riche en enseignement, c'est tout simplement parce que l'enregistrement n'a pas bien fonctionné. Donc voilà, dommage. On va commencer aujourd'hui, je pense, avec un très bon Raw, même un meilleur Raw que la semaine dernière. Ça a commencé avec Shane McMahon qui entre sur scène et qui explique qu'il a le droit d'être GM une nouvelle soirée parce que les réseaux sociaux sont contents de lui, donc, et que Vince McMahon trouve ça très amusant de regarder son fils diriger Raw, alors que environ 3 semaines avant il pensait que ce serait le pire enfer sur terre. Il annonce donc qu'il y aura Natalia contre Charlotte pour le WWE Women's Championship, le tag team tournament pour désigner l'équipe qui affrontera The New Day, qui sont champions depuis des plombes, je sais pas combien, mais ça fait énormément de temps. Donc il y aura un championnat par équipe, et puis il y aura un Sami Zayn contre AJ Styles avec comme résultat que si Zayn gagne ce match, il aura le droit de participer à la rencontre Roman Reigns contre AJ Styles, ce qui nous fait un triple threat match, comme ils disent. Donc voilà, et à la fin de ces annonces totalement alléchantes, Owens arrive, Kevin Owens bien sûr, KO, il interrompt Shane McMahon et il lui dit « Dis donc, on se fout un peu de ma gueule dans la compagnie en ce moment, j'ai pas eu mon rematch pour l'Intercontinental Championship, donc voilà, je veux mon rematch maintenant tout de suite, lèche-moi les bottes. » Et Shane lui dit qu'il doit mériter ce rematch, ce qui est complètement débile, mais bon.
Disons que la première décision prise par Shane McMahon est quand même pas très glorieuse, voilà. Refusant le rematch à Kevin Owens, quoi. Qui se donne la peine de se déplacer en plus.
C'est un peu le principe du rematch, de ne pas avoir de conditions pour l'avoir. Sinon c'est pas un rematch, c'est juste un match de qualification pour. Enfin bref. Il doit gagner son rematch en battant le Swiss Superman Cesaro. Donc le gagnant aura le droit d'affronter le Miz pour la ceinture intercontinentale. Et ça, je pense que c'est le truc qui me faisait le plus baver dès le début du show. Donc on va prendre match par match, voilà, et puis je demanderai l'avis des experts des Cahiers du Catch. Le premier match, Cesaro, c'est pour donner un petit peu, j'essaie de donner un peu de crédibilité à ce podcast, hein.
Ça te plaît ça, Giscal, hein?
Ah bon, j'adore ça.
Qui prend pas de notes.
Donc le premier match, c'est Cesaro contre Kevin Owens. Donc Cesaro, il a un bandage sur l'épaule gauche, un bon gros bandage noir pour bien montrer, regarde, c'est là qu'il faut taper. Et donc pour montrer qu'il a eu une blessure, et Owens se concentre dessus pendant tout le match. J'ai noté un petit spot marrant, c'est le headlock de droite à gauche que fait Cesaro maintenant.
Ouais, c'était vachement sympa ça.
Donc voilà, il fait un espèce d'aller-retour avec ses bras, il fait des headlocks à droite, à gauche. Et Owens qui dit, alors ça c'était le moment un petit peu improvisation excellente, Owens qui se fait projeter sur la table des commentateurs et qui renverse le chapeau de JBL et qui lui dit « I got carried away, John ». Donc en clair, j'ai pas fait gaffe, John, je suis désolé. Et il lui remet son petit chapeau sur la table pour montrer un petit peu la camaraderie entre eux.
Ouais, c'est pas la première fois qu'ils se font des petites interactions en bord de ring. C'est un peu le spécialiste. Je pense qu'ils doivent être, je pense à mon avis, bien potes à côté, parce que Kevin Owens l'avait fait plusieurs fois, je crois, de faire des coups avec le chapeau de JBL ou des petites interactions off comme ça pour donner un peu de vie au temps faible des matchs. Donc c'était cool. Mais vraiment, ils sont vraiment énormes les deux ensemble.
Tout comme avec Michael Cole, qui était à un moment sa petite biatch, ouais, il arrêtait pas de l'emmerder. Il y a des gifs sympas sur Internet à choper où tu vois que même quand les caméras ne filment pas forcément Kevin Owens,
c'est là où il est très fort. Hein. C'est vraiment mec, dans les détails.
Conscience totale de ce qui se passe.
C'est un peu devenu le spécialiste des petites phrases en milieu de match, le truc dont qu'on s'attend, enfin à chaque fois c'est un peu le truc auquel on s'attend pas, Owens qui sort une phrase, genre fait quoi, qu'est-ce qui vient de sortir. Et donc j'ai noté aussi, il a fait un frog splash mais énormissime sur Cesaro alors qu'il était au milieu. J'ai trouvé ça un peu violent, mais c'était cool. Et donc
pour une fois que ça touche, un frog splash touche une cible.
Ouais, c'est vrai qu'il est flop.
Il est pas contré ou esquivé.
Donc Cesaro tente à un moment un sharpshooter sur Kevin Owens. Ça marche pas. Il arrive aux cordes, il me semble. Et c'est avec un neutralizer que Cesaro réussit à allonger Kevin Owens et à faire un tombé de 3. Est-ce que vous avez trouvé que c'était un bon match, et est-ce que vous avez des inquiétudes sur le sort d'Owens, parce que quand même là on lui a carrément refusé on lui a carrément programmé une annulation de rematch, alors que ça aurait été peut-être une façon de le faire remonter un petit peu dans la carte, mais bon, au profit de Cesaro que tout le monde adore, donc finalement c'est...
Bah, effectivement, comme je disais tout à l'heure, cette décision de Shane McMahon de pas accorder ce rematch, en tout cas de l'accorder mais avec des conditions, c'est pas la décision la plus juste qu'il ait prise. Il en aura pris d'autres beaucoup plus intéressantes plus tard. Enfin, après, elle est intéressante parce qu'elle justifie un match qui était franchement, j'ai trouvé vraiment très très bon. Avec une histoire toute simple, hein, comme tu dis, Cesaro, voilà, il arrive avec des straps, donc il y a juste à taper sur la cible, hein, c'est comme jouer en full auto sur FIFA, il y a pas grand-chose à faire à part appuyer sur croix. Donc voilà. Après, effectivement, techniquement, c'est impeccable. C'est comme tu dis, Cesaro, on sent que dans le ring, maintenant il est pas juste un bon technicien, maintenant il s'améliore sur l'interaction avec le public. Les fameux headlocks dont tu parlais, clairement, c'est pour faire mousser le public, c'est très rigolo à voir. Donc voilà, c'est un super match. L'issue, le résultat est super intéressant pour Cesaro. Pour Kevin Owens, c'est pas dommageable, hein. On imagine très bien qu'il va être appelé à une autre rivalité avec un rouquin du même pays que lui. Tout peut pas tourner autour de la ceinture. Et puis finalement, ce côté, je me fais scrouer sur mon rematch, ça correspond bien au personnage de Kevin Owens, qui est toujours en train de se plaindre de son traitement. Donc là, il aura des bonnes raisons de se plaindre encore plus.
Ouais. Écoute, moi, je partage tous ces avis-là. Bon, sur le booking du match en tant que tel, bon, en effet, la décision de Shane. Bon bah oui, c'est sûr que c'est du jamais vu entre guillemets, hein, parce qu'un rematch normalement c'est pas discutable, c'est même pas. D'ailleurs on se pose même pas la question, hein, on sait que le champion va avoir un rematch. Bon, c'est dans la lignée, hein, de toute façon du mini n'importe quoi qui fait qu'il est encore GM ce soir. bon, on va dire que on se pose pas trop la question, et puis ça marche. Il est face, Kevin Owens est heel, le public mord dedans. Bon, ça fonctionne. On va mettre la logique de côté une fois de plus pour cette fois-là, mais bon. Ça va parce que ça marche bien. Ouais.
C'est un petit peu comme si, avant WrestleMania, ils avaient décidé, bon, à WrestleMania, on laisse Vince faire tout ce qu'il veut, et le lendemain, on fait semblant qu'il a rien fait, et on fait tout ce qu'on veut.
Ouais, écoute, c'est un peu ça. Ouais.
Et donc,
et puis, bah, sinon, écoute, sur le match, voilà, hein, le match est top, hein, franchement, je pense qu'il a duré à peu près 15 minutes, hein, c'était 15 minutes de folie, un super opener, sur Cesaro, moi j'adore de plus en plus, hein, je suis de plus en plus fan.
Et ce que j'ai trouvé marrant, en fait, enfin, je m'en suis rendu compte pendant le match, j'ai repensé bizarrement au vote vilain et je me suis dit, putain, en fait, Cesaro, il a vraiment réussi le gimmick des votes vilains. Il arrive vraiment pas. Les mecs, ils arrivent pas à le faire rentrer ce gimmick des musclores
Un
qui
petit
sont
ouais.
démonstratifs et tout ça.
Non,
Et finalement,
mais
c'est
c'est vrai
lui
qu'il
le modèle,
il a
quoi.
un côté à la fois très 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 démonstratif, en effet, ouais, très cirque presque, et en effet, et à la fois très technique. Et puis tu sens qu'il a vraiment maintenant une panoplie de face complet, hein. Il a ses moves incontournables, donc les uppercuts dans les coins, le Cesaro swing, sa panoplie de souplesse et compagnie. Enfin voilà, il a son petit arsenal de face, et à côté de ça, il arrive constamment à chaque match à nous caler une petite innovation, un petit truc en plus qui fait rire, qui fait réagir, qui fait encore passer le match pour, bah, justement, chacun de ces matchs est spécial, donc c'est vrai que c'est top. Et puis bah, Kevin Owens, bon bah, y a rien à dire, hein. C'est la même chose, mais du coup en version heel, lui il arrive à, au lieu de le faire par des moves spectaculaires, bah, il arrive à rendre chacun de ses matchs spéciaux par des petites phrases, par des petites mimiques, par des sales gestes. À chaque fois il y a un petit truc différent, donc bon, les deux ensemble c'est du caviar, hein. Et
D'accord.
puis bah, après, bah, sur le résultat, moi je suis comme Irem, hein, je suis pas du tout inquiet. Kevin Owens, il a une feu de toute chaude, toute prête, avec Sami Zayn qui arrive. Et puis bah pour Cesaro, il va tranquillement se diriger vers le titre intercontinental. Voilà, les titres ne peuvent malheureusement pas avoir 5, 6, 7 challengers en permanence. Donc voilà, je me fais pas de soucis. Ils ont chacun des programmes ouverts, donc tout va bien pour eux. Et puis c'était un super moyen de démarrer ce Raw.
D'accord. On est passé ensuite à un segment backstage avec Dr. Phil qui est venu. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le Dr. Phil, en fait c'est un homme qui avait une émission de sorte de psychologie, enfin non, psychologue de télé quoi. À la télévision américaine, il est assez connu. Et donc il vient voir Charlotte et Ric Flair et il explique à Charlotte qu'elle doit se libérer de son père, hein, le bon vieux syndrome de la petite fille qui veut rester proche de son père. Et donc, elle doit se libérer de son père si elle veut prouver qu'elle est championne. Ce serait pour moi un début d'annonce du départ de Ric Flair du ringside en tant que manager. Je pense qu'il va y avoir forcément une histoire de Ric Flair qui lui coûte la victoire prochainement dans un combat. New Day arrive sur scène ensuite et présente un superbe tableau du championnat tag team sur le dos d'une boîte de bootyhose. Et on a donc comme premier match les Usos contre les Social Outcasts. Ah oui, non, j'avais pris la liste. Alors, je cite la liste, c'est vachement organisé ce que je fais. Je cite la liste qui est donc la liste de matchs du championnat tag team. Donc, il y a Uso contre Social Outcast, Golden Truth contre Vaudevillain, les Dudleys contre Lucha Dragon et Enzo et Cass contre The Ascension. Juste après, donc, le segment et la pub, on revient et donc on arrive au. À On arrive au Lucha Dragons contre les Dudleys. Mais
Ouais,
mais
exactement.
on arrive à un moment qui est assez particulier, vu que Kalisto est par terre et apparemment il n'arrive pas du tout à se relever. Ce qui n'est pas du tout du kayfabe ou quoi que ce soit. Hein, il ne se relèvera pas pendant tout le match et c'est Sin Cara qui fait 3 minutes de match et se mange à la fin un 3D de Devon et de Baba. Mais c'est à ce moment-là que Enzo et Cass sortent des coulisses et ils viennent rappeler un peu qu'ils ont une rivalité avec les Dudleys.
Ils viennent sortir leur catchphrase.
Voilà, ils sortent leur fameux You Can Teach That. Devon leur explique que si vous êtes là, Enzo et Cass, c'est grâce à nous. Et Enzo lui répond non, si je suis là, c'est parce que mes parents ont couché ensemble. Enfin, pour résumer.
C'est ça.
Donc c'était très fin et donc voilà juste segment sympathique. Par contre le match le match a pas vraiment existé parce que voilà des blessures de Kalisto. Je sais pas, je me suis pas renseigné s'il va mieux, mais en tout cas il s'est pas relevé. Il a enfin on l'a pas vu à la télévision, c'était comme si il avait pas participé au match. Donc ensuite
non mais apparemment ce serait un work hein, la blessure, c'est pas il est pas vraiment blessé hein. Je pense que
pardon
il semblerait que ce soit plus un moyen de lui éviter de trop apparaître dans le match, de le garder parce que comme il est champion US et que de toute façon il s'était pas mal éloigné de l'équipe depuis quelques temps, c'était histoire de voilà, ils avaient besoin de cette équipe là pour faire le match pour leur tableau. Mmh. Mais ils voulaient pas que Kalisto prenne trop cher parce que c'est pas le but, donc du coup il semblerait que ce soit un work.
D'accord. Bah alors,
j'espère pour lui. Hein.
Je sais pas comment ils ont réglé leur temps de pub et leur temps de match, mais franchement, on n'a rien compris. Hein.
Ah bah on a même pas vu entrer les deux de les boys, je crois. Hein. On arrive directement dans le match.
Ouais.
Donc effectivement, on voit même pas Kalisto et on a droit à notre petit botch habituel.
Botch Kara. Non, c'était pas Kara.
Et puis on a 3 minutes de match et au moins 2 ou 3 botch, dont le fameux botch de tomber, c'est-à-dire Divonne qui tente le tomber alors que c'est.
Ouais. La présence d'esprit de Boba qui le pousse immédiatement.
Il est très fort hein, pour là-dessus. Déjà la semaine dernière avec la décision d'arbitre, je crois qu'il était qu'ils avaient sonné la fin du match alors que c'était pas terminé. Bon, voilà.
Donc ensuite on a eu Roman Reigns qui est arrivé. Je vais pas demander l'avis sur le match parce qu'il était inexistant. Donc on passe à Roman Reigns.
Il y a pas grand chose à dire sur le match. Après, à la limite, il y a peut-être un truc, c'est que ça fait plaisir de voir un tournoi tag team. Enfin, moi, en tout cas, je suis plutôt content.
Oui.
Et puis, ça fait plaisir de voir aussi un tableau de tournoi tag team avec que des vraies équipes. Je pense que, parce que j'ai souvenir, mais alors je serais incapable de dire ça fait combien de temps ça fait qu'il y avait eu un tournoi récemment par équipe. Mais pour une fois qu'on a un vrai tournoi avec que des vraies équipes et qui nous font pas des petites associations one shot pour faire le nombre où généralement sont conviés des gens comme Mark Henry, Jack Swagger et compagnie. Là, on a que des vraies équipes et encore, elles étaient pas toutes là. Donc, ça montre quand même une sacrée profondeur et puis ça fait un beau tournoi. Donc, c'est cool. Franchement,
En parlant de profondeur, ils sont quand même allés chercher jusqu'à The Ascension.
Ouais, mais c'est comme tu dis, c'est une vraie équipe.
Ça fait plaisir. Moi, je préfère voir The Ascension que, je te dis, Jack Swagger et j'en sais rien.
Et Cody Rhodes. Et Stardust.
Ouais, voilà, tu vois, ça a du sens. Quoi.
Donc, Roman Reigns, que j'essaie de caser depuis tout à l'heure, même si tout le monde le déteste. Il arrive, il se fait bouer et il nous fait la même promo qu'il a fait à Raw de la semaine dernière, à SmackDown de la semaine dernière.
Ouais.
Je suis the guy, je suis pas un méchant, je suis pas un gentil. J'ai the title.
Pour tout te dire, moi personnellement, quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, mais merde, attends, est-ce que je me suis pas gouré en lançant mon player là-bas?
Pas trompé d'épisode.
Ah ouais, franchement, je me suis dit,
L'ABC du marketing, hein. On va marteler jusqu'à ce que ça rentre. Hein.
Je sais pas qui s'occupe des promos de Reigns, mais on a vraiment l'impression que les gars, ils ont passé des semaines à faire de la merde, et là, ils ont trouvé une bonne idée, ils ont fait. Oh putain, on a réussi à trouver une bonne idée. T'en as une autre? Non, j'y arrive pas à avoir une bonne idée pour Roman Reigns. Bon, on la refait. Trois jours après, t'as trouvé une idée? T'as trouvé un nouveau truc? Non. Bon, cette fois-ci, il dira the title aussi.
C'est vrai qu'il a bien appuyé là-dessus.
Donc voilà. Et là, on a l'arrivée du poil sur la soupe. C'est-à-dire League of Nations. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours comme un cheveu sur la soupe. Ils viennent expliquer qu'ils sont plus forts et bien sûr plus beaux. Enfin, ça, c'est Rusev qui dit qu'il est plus beau que Reigns.
Ah bah.
Et que voilà, en fait, je sais pas, ils disent juste qu'ils sont meilleurs. Et ils vont attaquer Reigns. Et là, il se fait sauver, Roman Reigns, par la Wyatt Family. WTF, ouais. Comme on dit.
Est-ce si vraiment étonnant? On commence à pas avoir l'habitude.
En fait, la Wyatt Family a tellement. Les plans sont tellement flous pour la Wyatt Family qu'ils sont capables de faire tout, c'est vrai.
Ils font ce qu'ils
veulent. Donc voilà. Là, ils vont sauver Reigns. Ils le regardent un peu dans le blanc des yeux. On sait pas trop ce qui va se passer. Et là, il y a Shane qui arrive en mode Teddy Long et qui fait Tag Team Match! qui dit ça m'intéresserait de voir Reigns et Bray Wyatt contre Sheamus et Del Rio. Donc voilà, c'est le main event de la soirée, aussi improbable qu'il sonne. Mais il sera plutôt intéressant ce main event, mais on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, alors je ne sais plus si c'est exactement à ce moment-là, mais on a eu Owens qui a retrouvé Shane dans les coulisses et qui s'est bien énervé parce que voilà, il s'est fait une nouvelle fois voler.
Ah, c'était un peu plus tôt ça dans l'émission, mais
ouais, c'était un peu plus tôt. Mais enfin, de toute façon, peu importe le moment, c'est il se fait virer de l'arène normalement pour la soirée.
Et ce qui est original, c'est qu'on ne le reverra plus.
Ça, oh, le spoiler!
Ah, c'est fort.
Ah, spoiler, il n'y a pas de suspense, tant pis.
Spoiler alerte.
Oui, donc du coup.
Les mecs trouvent toujours un moyen de revenir. Bah, lui, non, il rentrait chez lui, retrouvait sa femme et son gosse, et regardait la fin de Raw en direct.
C'est Shane McMahon, il rigole pas.
C'est vrai qu'en 4 ans, ça fait environ, 4 ans que je suis Raw quasiment toutes les semaines, j'ai jamais vu un mec se faire virer et ne pas revenir. Ou une fille. Pas, de toute façon, non, ils virent pas les filles.
C'est gentil.
Donc, on a enchaîné ensuite avec Charlotte contre Natalia, donc. J'ai noté donc que Natalia gagne grâce à un sharpshooter, mais au même moment, Ric Flair tire l'arbitre hors du ring et on sonne la cloche, je ne sais pas pourquoi, mais on sonne la cloche et on déclare que la ceinture n'a pas changé de main car il y a disqualification. Le match en lui-même était plutôt technique et c'était très c'est du catch très au sol avec pas mal de soumission et de comment dirais-je, non mais juste voilà de soumission et de prise très technique. Est-ce que vous pensez que Charlotte contre Natalia c'est parti pour durer? Voilà, c'était ma question. Et est-ce que vous avez aimé le match aussi?
Alors oui, effectivement, le match était vraiment très bon par rapport, en tout cas, au standard auquel on était habitué ces dernières années. Voilà, donc Natalia, prétendante très intéressante. On l'a déjà vu contre Charlotte à NXT. C'était une très bonne rivalité avec Brett à ses côtés, si je me souviens bien.
Ouais.
Là, Charlotte, voilà, là, c'est bon. La partition est un peu toujours la même, mais comme tu dis, on sent que ça glisse lentement vers quelque chose avec Ric Flair qui va. Je ne sais pas si ça lui coûtera le championnat, mais en tout cas, voilà, il y a une petite évolution sur l'histoire. Moi, j'en demande hein, un match comme ça à Payback. Je suis preneur, ouais. Pour moi, c'est une bonne affiche. La rivalité est assez naturelle entre les deux. Elle a été utilisée à NXT, on la réutilise à Raw. Bah voilà, on fait comme avec Kevin Owens et Sami Zayn, hein. Ce qui a marché à NXT, on le réutilise à Raw. Bon bah pour les suiveurs d'NXT, c'est un peu une redite, mais globalement, je pense que c'est vraiment plutôt intelligent de jouer cette partition là.
Ouais, non, c'est du bon boulot. Hein. Elles ont fait le taf. C'était un super match. En plus, Charlotte a elle est de plus en plus. Je suis pas un grand connaisseur de la psychologie in-ring, de la technique et tout, mais aussi solide soit-elle, elle a quand même encore besoin d'un petit peu d'être cadrée dans le ring. Et Natalia, c'est une super adversaire pour elle pour continuer à progresser et à s'installer en tant que championne dominante et reconnue. Donc au sortir du Triple Threat à Mania avec notamment Sasha Banks. Et puis bah du coup Becky Lynch continuer avec Natalia, je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien pour Charlotte. Et puis bah du coup Charlotte a pu sortir tout son arsenal super flashy, son moonsault, ses souplesses, ses compagnies, enfin c'était top. Moi j'ai bien aimé le finish, j'ai trouvé ça bon, pas original n'est pas le mot, mais en tout cas c'était intelligent et bien amené. En effet, c'est en plein dans l'histoire. On sent que Ric Flair prend de plus en plus d'importance dans les décisions de fin de match et ça va forcément amener quelque chose derrière. Et puis en plus de ça, pour une fois, on a vu une décision d'arbitrage intelligente et une bonne décision, puisque en effet la DQ était la bonne décision à prendre. Puisqu'il tire l'arbitre avant, ou en tout cas c'est la première chose que voit l'arbitre avant que Charlotte tape. Donc, en effet, il fallait bien disqualifier.
Ah d'accord, c'était avant qu'il y ait Ça, je crois que c'était à peu près au même moment. Mais...
Bah, c'est sensiblement au même moment, mais du coup, il se fait tirer, l'arbitre se retourne, il gueule sur Ric Flair, et puis pendant ce temps-là, Charlotte tape, mais sauf que c'est trop tard, l'arbitre, lui, on lui a mis la main dessus, donc c'est fini, disqualification. Et donc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, Charlotte s'en sort encore une fois ric-rac. Alors, attention quand même, moi, c'est le seul bémol que je mettrais, peut-être attention à pas trop... à pas trop mettre l'accent sur Charlotte elle galère, heureusement qu'il y a son père pour la tirer des traquenards, parce que vous voyez, elle a tapé sur le sharpshooter, elle est pas très forte, peut-être pas trop, parce que c'est quand même important qu'elle gagne des matchs un peu plus, enfin en tout cas qu'elle perde peut-être des matchs plus clean que ça, on va dire. Mais sinon, dans l'ensemble, enfin c'est une bonne défaite de heel, on va dire. Ça a bien fait rager tout le monde. Tout le monde était bien derrière Natalia. Et puis ça va donner un très bon match à Payback. Je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin que ça. Je pense que ça va être Payback. Et puis derrière, on verra ce qui se passe après. Je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin. Mais en tout cas, une bonne rivalité. J'en redemande.
D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux et qui ont le WWE Network, il y a Tables for Free avec Charlotte, Natalia et troisième,
c'est Tamina.
Tamina, voilà.
Ah, et Tamina.
On l'oublie tout le temps.
Non, j'y ai pensé.
Ça existe.
Non mais donc voilà, et elle parle un peu de leur rivalité à NXT, et puis elle parle de, enfin Natalia, elle était obsédée par le fait d'avoir une nouvelle rivalité avec Charlotte, donc tant mieux pour elle. Ouais. Et puis c'est un peu un talent oublié aussi, Natalia, pendant quelques années, parce que
ouais, elle mérite,
entourée de bimbo quoi, donc c'est difficile de faire des bons matchs avec Kelly ou... ou autre.
Non, c'est vrai qu'elle mérite d'avoir des runs comme ça et des matchs pour le titre, ça fait plaisir quoi.
Donc voilà, on a eu ensuite une petite promo de Zayn qui a ressorti à peu près le même discours qu'il avait eu juste avant de se faire taper par Owens la semaine dernière, c'est-à-dire j'ai un cœur de lion, je suis courageux, je viens d'un monde où on ne donne pas des opportunités facilement, et AJ Styles qui vient lui dire que j'ai pas envie d'être en triple threat contre Reigns. Et ensuite, on a eu le match tag team des Usos contre les Social Outcasts, Heath Slater et Curtis Axel. Au milieu du match, les Social Outcasts ont décidé de faire une course de célébration autour du ring, comme ils aiment le faire. Merci Bo Dallas pour cette tradition. Profitant du fait que Jimmy Uso est allongé, donc ils font leur petit tour, et après ils se mettent au bord du ring pour saluer le public, et c'est à ce moment-là que, alors si je me trompe dans les prénoms, on fera un test sur qui arrive à reconnaître les frères Uso, mais donc c'est Jimmy qui tag Jay qui chope Curtis Axel,
c'est osé,
sur le bord du ring, le dos tourné, et donc fait un roll-up pour la victoire Curtis Axel. Et c'est là que ça se gâte, puisque Luke Gallows et Carl Anderson, les anciens de la New Japan et qui faisaient partie du Bullet Club, il me semble.
Tout à fait.
Arrivent derrière les Usos, ils en balancent un par-dessus la troisième corde, comme disent les animateurs français, et en tabassent un autre. Et voilà, en fait, ils font une bonne vieille entrée de nouvelle tag team heel, ensuite en saluant le public, en regardant le public
prendre des selfies
pour montrer leur force, et donc voilà, rien d'autre à raconter. Quelle place pour vous pour les anciens du Bullet Club, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de les présenter seuls comme ça, sans pas les associer à quelqu'un d'autre, d'installer. Est-ce que c'est une bonne idée, et puis aussi est-ce qu'il y a de la place dans cette piscine de tag team à la WWE pour eux?
Alors effectivement, comme tu dis déjà pour ta deuxième question, il y a beaucoup de tag team, ça c'est sûr. On ne sait pas, mais comme tu le dis aussi, on ne sait pas exactement quel va être leur rôle. Moi, j'aime bien ça, la façon dont ils ont été présentés. Les mecs arrivent, ils sont deux. Bon, clairement, ils s'attaquent aux zoos qui représentent effectivement, enfin, qui sont une bonne équipe pendant le tournoi de tag team. Donc, ça peut donner l'idée qu'ils vont, voilà, s'incruster dans le tournoi d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, foutre le bordel. Après, tous les scénarios sont possibles. En particulier quand on connaît l'historique des deux gaillards, hein, qui effectivement faisaient partie du Bullet Club, et quand on sait que y a voilà les deux premiers dirigeants, dont le créateur du Bullet Club, Finn Balor à NXT et AJ Styles, donc qui était le second capitaine du navire, si je dis pas de bêtises, qui lui est à Raw. Voilà, il y a des connexions entre tous ces catcheurs, ce qui permet aux suiveurs d'imaginer tout un tas de scénarios. Voilà. Est-ce que ils vont suivre cette piste-là et les rattacher à un moment donné avec AJ Styles qui a un match contre Roman Reigns qui est le cousin des Uso qui viennent d'être attaqués par les anciens du Bullet Club
C'est juste.
Enfin, bon, voilà.
Sans mauvais jeu de mots, on dirait vraiment
y a,
Dallas.
Il y a même plus 6 degrés de séparation là à ce niveau-là, mais bon, c'est un scénario possible.
Et je précise par contre, Finn Balor, il est pas tout près d'être sorti de NXT parce qu'il a quand même encore sa ceinture, quoi. Donc,
Il a sa ceinture, mais bon, ce qui n'avait pas empêché à l'époque Kevin Owens de venir faire le mariole à l'étage du dessus, mais bon, c'est vrai qu'il a, pour l'instant, il a sa ceinture, donc c'est pas d'actualité.
D'accord. Donc voilà, le match en lui-même, j'imagine, il n'y a pas grand-chose à raconter.
Non, non, bon,
incroyable, hein.
c'était clairement un prétexte pour manifestement l'intervention des deux loustiques, hein.
J'aimerais bien qu'un jour on apprenne à Curtis Axel un move personnel, parce que j'ai jamais vu vraiment faire quoi que ce soit de propre à Curtis Axel.
C'est vrai que je serais incapable, déjà, je serais même pas capable de vous dire quel est son finisher, je pense. Et puis alors,
est-ce qu'il finit
moins,
des matchs?
Ouais, déjà.
On le laisse même pas rentrer au Royal Rumble, alors finir des matchs.
Non, mais c'est fou, je pense que c'est un des rares mecs, je serais pas capable de vous dire quel est son finish. Mais,
pourtant, il n'a jamais perdu.
Et oui,
sans Royal Rumble.
Il est invaincu au Royal Rumble.
Donc voilà, bon, je vais passer à la promo du Miz. Sinon, il a fait ensuite une petite promo, donc toujours backstage dans sa petite loge VIP, accompagné de Maryse. Depuis la semaine dernière, il a Maryse comme manager. Et donc c'est surtout Maryse en fait qui parle et qui fait des espèces de réclamations de stars comme il faut pas qu'il y ait de M&M's bleus dans sa loge.
Ah, j'ai adoré ça.
Ouais, je la comprends parfaitement.
Le Miz qui nous dit qu'il conduit une vraie, enfin il se déplace comme une vraie star contrairement à Zack Ryder. Il conduit une Audi R8 et Zack Ryder prend le métro. Cesaro arrive pour se moquer et lui promet des uppercuts sur un tapis rouge. Et à la fin, le Miz tente de boire la bouteille qui était sur la table, et Maryse l'empêche en criant « Domestique !», ce qui veut dire « eau du robinet », pour les moins anglophones. Ouais. Donc voilà, c'était un segment plutôt marrant, et une nouvelle fois, le Miz, quoi qu'on en dise dans le ring, c'est quand même un bon atout pour les promos de la WWE. En général, il sait sortir des trucs plutôt marrants avec son personnage.
Ouais, non. Moi, je suis complètement fan du Miz depuis longtemps. Et là, du coup, il a réussi, je trouve, à encore pousser un peu plus loin sa gimmick de star hollywoodienne avec l'ajout de sa femme dans la vraie vie, Maryse. Et là, je pense qu'ils ont les moyens de vraiment nous faire triper pendant de longues semaines, de longs mois, parce que ça, moi je trouve que ça marche très très bien là pour l'instant depuis 2 semaines les deux. Et puis cette promo est à l'image de tout ce qu'ils peuvent apporter autour du ring, dans le ring et par des segments micro pour se faire détester et nous faire bien marrer. Donc cette promo était juste trop marrante, je trouve. Les concombres sur les yeux du Miz, le coup de l'eau potable, enfin de l'eau du robinet au lieu de l'eau minérale, les M&M's, enfin tout était vraiment top. Et puis y a un truc aussi qui était pas mal, je trouve, à la fin de sa promo et qui peut devenir un gimmick de heel vraiment très très efficace, je pense. C'est quand il répète 3 fois la même phrase pour être sûr de bien le dire sur le bon ton, en mode un petit peu on fait plusieurs prises au cinéma.
Il répète
sa conclusion plusieurs fois, et je pense que à mon avis ça a bien marché, et on va le revoir dans ses futures promos, ça. Et c'est un vrai truc de heel, et c'est vraiment top. Donc moi, je suis très content de ce petit duo, et je suis presque pour qu'il garde la ceinture un petit moment, parce qu'il va nous faire rire, je pense.
Ouais, je te rejoins effectivement. Voilà, mise, c'est une perle en termes de segment backstage, de micro. Voilà, sur le ring, il a ses détracteurs, mais franchement, au micro, on peut pas lui reprocher grand chose. Et en plus, bah voilà, on lui met Cesaro. Cesaro, lui, c'est un peu le contraire. Le micro, c'est pas son fort. Mais on sent de l'amélioration avec les interactions avec le public, mais aussi même dans les segments backstage. Il a un peu moins à l'ouest. Donc voilà, les deux, ça marche très bien. Et puis alors Maryse en manager. Ah ouais, là c'est magnifique. En plus, on sent une complicité entre les deux, entre le Miz et Maryse, évidemment renforcée par le fait qu'ils se connaissent très bien.
Oui.
Mais vraiment là, ça marchait très bien. Maryse remplit super bien son rôle, et comme tu dis, le Miz, c'est une machine à petits gimmicks. Il va trouver les petites choses qui vont faire que les gens vont adorer le détester, et voilà. Donc ouais, comme tu dis, si ça continue comme ça, mais contrairement au règne précédent du Miz en tant que champion intercontinental, je veux bien un règne un peu plus long cette fois-ci, s'il est haut en couleur.
D'accord. On passe à AJ Styles contre Sami Zayn, qui est un peu le main event des marques.
Ah, je pense qu'il y a eu pas mal de
caleçons. Les darlings d'Internet, comme on dit.
Pas mal de caleçons qui ont dû se tremper. Là. Ouais.
Donc, AJ Styles, bon, je résume juste à la fin du match, parce qu'il y a énormément de bons moments dans le match, mais AJ Styles se relève après un Blue Thunder Bomb. Et un peu plus tard, réussit à contrer un Hell of a Kick de Zayn pour monter sur la troisième corde et faire un Phenomenal Forearm sur Zayn. Je suis en train de relire mes notes. Non, parce que j'avais noté un autre spot avec
ça.
Le Sunset Flip, etc. Mais bref.
Bref,
il réussit le tomber sur Zayn à la fin, mais ils se sont mis 2-3 finishers quand même dans la figure avant de finir. Je sais pas quoi dire. C'était un match vraiment excellent. Pour moi, limite. Allez, on rajoutait peut-être 3 minutes de match, ça fait un match de pay-per-view. C'était un match excellent, et c'est vraiment ils ont bien joué le suspense et ils vont à 100 à l'heure les deux, c'est hallucinant. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'adore les deux. Même si Zayn, je suis pas un gros fan de. Je pense qu'il est vraiment pas terrible au niveau de ses promos, etc. Et il manque. Il a un charisme de gentil, mais pas bien fouillé. Mais en tout cas, les deux dans le ring, c'est forcément un super match. Voilà, vous en pensez quoi vous...
Ouais.
On sent en tout cas, toi, que t'es encore sous le coup de l'émotion.
Ah, mais j'ai re-regardé le match, aller une demi-heure avant le podcast.
Ah,
et
ouais.
Je commençais à noter des trucs, et après j'ai fait non, je peux pas, parce que je vais écrire 10 minutes de texte sur le match, tellement il y a de.
Ah, tu serais le Rock, t'aurais fait un gros plan avec ta webcam sur ton bras avec tes poils hérissés pour bien prouver que c'est vrai tout ça. Mais sinon, oui, comme tu dis, ouais, alors voilà.
If you smell the 4-star match.
Ah ouais. Mais une fois de plus, un petit main event avant le main event, un peu comme avec WrestleMania et les filles. On nous propose quand même des superbes affiches. Là, franchement, tout ce row a proposé des affiches assez endiablées. AJ Styles, Sami Zayn, ouais, comme tu dis, c'est pas les rois des segments backstage, c'est pas les rois du micro. faut dire, bah, ils ont pas trop l'habitude. Zen commence un peu à roder son personnage. Comme tu dis, c'est encore assez monolithique. Hein. C'est, y a un peu une, allez, une, deux façades, je dirais. La deuxième qui est en train un peu de découvrir, notamment pour ceux qui ont regardé le match sur NXT avec Nakamura. On voit quelqu'un qui commence à vouloir prendre un peu des responsabilités et à se dire, bon, bah voilà, ok, je suis toujours en train de me, il est toujours en train de se comparer au meilleur. Il se considère pas être le meilleur, toi, un peu à la différence de Daniel Bryan qui a été sûr de lui, parce qu'on compare souvent Sami Zayn à Daniel Bryan, évidemment. Mais Daniel Bryan, en tout cas, à un moment donné, était vraiment sûr de lui, sûr de, qu'il était le meilleur, en tout cas. Sami Zayn, on voit qu'il est dans le doute, pour lui, les meilleurs, c'est les autres, il doit battre les meilleurs pour, prouver et se prouver quelque chose. Et AJ Styles en fait partie, évidemment. Et le match nous l'a bien prouvé. Je me suis fait une petite frayeur à un moment. Sami Zayn a un peu mal retombé sur son crâne.
Ouais,
je crois.
Ouais, un petit peu, ouais.
Bon,
ouais.
Il y a eu un truc un peu bizarre. J'ai eu un peu peur, mais comme tu dis, voilà. Superbe match avec du suspense. Parce que, voilà, autant Shane McMahon en début de soirée a pris des décisions un peu étranges, autant celle-ci est intéressante. Voilà, on a Sami Zayn qui devait participer au match de qualif, qui s'est fait un peu avoir. Bah, il a droit à une seconde chance. Tu te dis pourquoi pas, des triple threats en plus, bah, on en a à chaque pay-per-view. Donc il y avait du suspense. Et voilà, le final est quand même logique et c'est super intéressant pour la suite.
C'est ce que j'avais noté en fait quand je parlais de Sunset Flip, c'était ce spot là où je crois que c'est Styles qui tente un Sunset Flip et Zayn qui fait une sorte de backflip et à ce moment là ouais. Il retombe. Et j'avoue que j'ai eu assez peur quoi parce qu'il était à 2 cm près, il était pile sur sa nuque quoi, quand il est retombé. Donc, ouais. Donc ouais, oh, c'est toujours un taré Zayn. Il compensait.
Oui, voilà. Il avait pas sa casquette de hipster pour rembourrer pour protéger le haut de son crâne, donc il faut qu'il fasse attention.
Ouais, il faut
fasse attention à comment il s'habille et comment il... les risques qu'il prend sur le ring.
Ouais, les deux ont un look un peu particulier. Ouais.
Beaucoup de points communs, AJ Styles et Sami Zayn.
Non, mais moi sur le match, j'ai rien à ajouter. Hein. Bon, après, moi c'était pas mon dream match parce que je les connais pas beaucoup en fait les deux, moi tout simplement. Hein. C'est vrai que AJ Styles, pour moi, c'était pas un parfait inconnu. J'exagère parce que je connaissais son nom, mais j'ai jamais regardé la TNA, j'ai jamais regardé la NJPW, donc c'est vrai que je savais pas forcément tout ce dont il était capable. Sami Zayn, j'avais vu un peu NXT, mais je restais largement novice dans la matière. Et je dois avouer que autant je pense que les gens étaient très nombreux à attendre ce match, autant moi j'en attendais pas grand-chose et j'ai été complètement scotché. Quoi. Enfin, c'est ça va à 200 à l'heure. Les mecs se rendent coup pour coup. C'est aussi bon au sol que entre les cordes, que hors du ring, que à la voltige. Moi je suis à chaque fois, je suis sur le cul de voir les plongeons que Sami Zayn fait hors du ring. C'est juste hallucinant la hauteur à laquelle il va. Et puis après au-delà de ça, le match au-delà du côté spectaculaire, le match était juste fantastique parce que voilà, comme tu disais Yarem, il y avait du suspense, on y croyait, enfin la stipulation avait du sens quoi. Le mec s'était fait baiser la semaine dernière, il a une deuxième chance, c'est tout à fait possible qu'il y ait un triple threat à Payback. Donc les gens y croient, les gens mordent dans chaque near fall. C'était juste top quoi, ça allait à 200 à l'heure et on y a cru jusqu'au bout. Et puis ce qui aide aussi beaucoup, c'est que Sami Zayn, en fait, moi j'ai beau ne pas le connaître, en fait j'ai envie de l'aimer ce mec. C'est juste, il a une tête, en fait je pense que c'est un peu, il est pas loin d'être un peu le prototype du face ultime où t'as juste envie de l'adorer et d'être pour lui et de le voir réussir parce qu'il est super humble, il est tout le temps souriant, il a un thème son d'entraînant, voilà, on le kiffe, il rentre, on le kiffe. Donc du coup, ça marche bien.
Il a réussi à imposer une danse ridicule à l'entrée de son générique.
Un petit peu.
La première fois que je l'ai vu à NXT faire ce truc-là, j'ai fait « qu'est-ce que c'est que ce cake ?»
C'est vrai, mais tu sais pas pourquoi, il y a un petit côté attendrissant, tu te dis mais non, mais ce mec, allez, il va réussir, je suis pour lui quoi. Et je suis pas complètement d'accord, je trouve, quand on dit que c'est, bon, évidemment c'est pas son point fort, le micro hein, c'est lui, ça marque son fond de commerce, c'est dans les cordes hein. Mais je trouve qu'il est pas si il est pas si mal que ça. Il, voilà, quand il parle, il y a un petit côté humble, un petit côté, enfin, déjà naturellement super sympa, qui fait que quand il parle, bah, tu l'écoutes et t'as envie d'être pour lui, t'as envie de le voir réussir. Bon, évidemment, c'est un peu gnangnan, mais je trouve que ça marche bien. Alors que, à l'inverse, moi, il y en a un qui m'inquiète un peu depuis qu'il est arrivé. Je trouve que, bah, AJ Styles, au micro, pour un mec qui est censé, parce que là, quand même,
Assez
number one
laborieux, ouais.
contender, a priori, la WWE a de gros plans pour lui. C'est léger, hein, franchement, moi, il me convainc pas. À chaque fois, ça fait un peu forcé. On a l'impression qu'il sait pas trop où se foutre quand il parle. Je sais pas. Il me convainc pas des masses au micro. Je sais pas ce que.
Mais clairement, la semaine dernière, sa promo en face de Roman
Ouais.
Reigns, c'était ça
C'est
nageait,
la
mais alors
bombe.
les deux, hein, les deux,
Oui, oui,
ils
mais
en étaient à genre,
il est pas aidé, hein. Il...
si tu es the guy, je suis the guy qui va te battre, si tu as the title, et je suis the guy qui aura the title, oh là là.
Non mais
Bah, ça va
voilà.
alimenter les cassettes pour le performance setter sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour des promos de fin de des pilotes quoi.
Vous le voyez ce flottement dans nos deux top stars
Non mais c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu inquiétant quand même, parce que il est vraiment pas au top. Après, en interview, quand ils sont interviewés par René, il y a pas de problème. Bon voilà,
Ouais,
il
faut
balance
qu'il
son
soit guidé.
texte
Ouais.
et tout. Mais par contre, quand il est en un contre un dans le ring, que ce soit avec Jericho, que ce soit avec Roman Reigns, je sais pas, moi à chaque fois je suis un peu gêné, parce que on a l'impression que le mec est pas du tout dans son élément quoi. Mais après je connais pas son passé, donc je sais pas s'il a sorti des promos enflammés par le passé, et que bon bah il faut qu'il prenne un peu ses marques et ça va venir. Mais là pour l'instant, en l'état, je le vois pas être the face ou the guy comme pouvait l'être bah, Seth Rollins ou les champions précédents quoi. Et Roman Reigns, bon c'est un autre sujet, mais
Ah.
voilà.
Bah ouais, non, mais en plus, c'est un petit peu le enfin, si on joue au jeu du moins pire, quand même, AJ Styles pourra pas faire pire que Reigns au micro et pourra forcément faire mieux dans le ring, mais.
Ah ça, c'est sûr.
Ce qui est dommage pour Reigns, parce que il a vraiment, je trouve, il a un parcours en dents de scie la dernière année où il a fait des matchs qui étaient convaincants. Il a fait et l'embêtant, c'est que c'est un pay-per-view, et le pay-per-view d'après, il fait du Reigns 100% Superman Punch et Spear, et voilà. En fait, il a toujours besoin du bon adversaire pour faire un bon match. Il peut pas faire un. Non, le top guy pour moi, c'est le mec qui arrive à faire des bons matchs avec n'importe qui. Et
C'est Cena.
voilà.
C'est
Et
John Cena.
c'est ce bon vieux John Cena.
Il va revenir bientôt, il va revenir.
Po 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 po.
Je...
Donc après, on a eu Jericho qui est arrivé une nouvelle fois avec une veste et un torse nu.
C'est original.
C'est
On parle des
son.
styles
Les
vestimentaires
mecs
des
ont
autres.
vraiment 3 minutes pour s'habiller avant de monter sur le ring, hein, c'est pas possible. Entre Sami Zayn, Chris Jericho et Cesaro, hein, avec son gimmick de ses teasers.
Je pense que y a, dans son contrat, Jericho, il y a marqué qu'il n'a pas le droit de porter un t-shirt. C'est interdit. Mais
C'est dans cet épisode où il y a un fan qui est aux abords du ring qui a exactement la même veste que Chris Jericho. Genre le mec s'est bien fait chier pour la faire,
j'ai
toi,
pas
il
fait
a
gaffe.
détaché toutes les guirlandes de Noël qu'il a trouvées dans
J'ai
son
pas
poitrine. Et Chris
vu.
Jericho passe devant, et genre le snob est d'une force, le mec. C'est même pas un regard. Je pense que il est rentré, il a remonté son sapin de Noël, le mec.
Donc il est venu faire son highlight reel sur lui-même pour
Oula.
s'interviewer lui-même
Énorme.
et se complimenter sur le fait que voilà, personne ne touche la légende Jericho dans le ring, etc. Et alors qu'on commençait un peu à s'ennuyer, eh bien c'est le lunatique fringe Dean Ambrose
Dean
qui est
fucking
arrivé.
Ambrose.
Avec une grosse plante, un peu pour se moquer de la plante qui est dans tous les highlight reels. Et donc voilà, il est venu un petit peu pour prendre la place de Jericho. Alors ils ont eu un petit face-à-face, il s'est moqué de son écharpe. C'était plutôt marrant parce que voilà, Dean Ambrose, lui, c'est... Je pense que Dean Ambrose, même si on le voit déjà comme un mec marrant depuis un bail, je trouve vraiment qu'il s'est tellement amélioré au micro dans le ring que maintenant il arrive à tenir des promos où il se passe pas grand chose, mais où juste il a le bon timing et il sort la blague au bon moment, où il joue énormément avec le public et on aurait presque oublié qu'il perd tout le temps. Mais donc voilà, il dit qu'il prend le relais, puis forcément ça s'échauffe et il lui fait un dirty deals, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, et puis ah oui, entre-temps, il a collé son gros panneau The Ambrose Asylum, je sais pas le prononcer.
Ouais,
sur l'écran du highlight reel. Donc voilà, on sait pas s'il fera vraiment une émission, mais en tout cas on sait qu'il y a une rivalité avec Jericho maintenant, et une rivalité qui, on l'espère, ne durera pas 50 ans comme celle de AJ Styles, qui avait plus vraiment de sens à la fin. Voilà, bah, ce que vous en pensez, enfin.
Non, bon, c'est un début de feud, quoi. Voilà, il lance la feud. Je pense que c'est un bon début de feud. C'est marrant. C'est à l'image de Dean Ambrose. Tu vois, moi, je suis pas. Bon, évidemment, il s'est amélioré, mais je trouve pas qu'il ce soit vraiment ça qui fasse que les promos de Dean Ambrose soient de plus en plus fun. Je pense que c'est surtout parce qu'il avait déjà plutôt une bonne aisance au micro, mais je pense aussi que en fait, vraiment maintenant, son personnage, il l'a, quoi. C'est il a sa gimmick, il a son personnage, et le public a kiffe ce personnage-là. Donc du coup, ça marche, quoi. Quoi qu'il fasse maintenant, on aime le voir arriver et faire n'importe quoi, et soit faire le fou, soit faire ce qu'il a fait là contre Jericho, à savoir être un peu ce à mi-chemin entre le cartoon et le badass. Le gars qui arrive, qui va sortir 2-3 vannes complètement barrées, ou limite il y a que lui qui comprend ce qu'il fait, et ça fait rire tout le monde, parce que maintenant c'est admis que il est comme ça, quoi. Il est complètement barré, il est fou, il débarque, il take over, là, il prend le contrôle, et puis voilà, il fout la merde. Donc du coup, ça marche bien, et la promo était super drôle, quoi. Il sort quand il dit qu'il a un mémo de Shane McMahon, mais qu'il sort son ticket d'amende de vitesse là.
Ah oui, j'en ai
avec un drôle de trou en plein milieu.
J'en ai pas parlé.
Un trou au milieu, on se demande qu'est-ce qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'il a fait avec.
Non, mais enfin voilà, donc c'est fun, et puis bah, Jericho, lui, en parallèle, il est super fort pour faire le heel, le heel désabusé qui est genre complètement tellement prétentieux et sûr de lui que ça en devient ridicule, il le sait, et justement ça donne un duo comique qui marche bien, et donc pareil, je pense qu'on va bien se marrer. La feud sera pas très longue. Voilà, cette fois, j'espère que Jericho la perdra, parce que je pense que l'objectif, c'est de faire gagner Ambrose ici, parce que bon, j'ai toujours pas compris la victoire de Jericho à Mania, mais ici, bah voilà, je pense qu'il est dans son rôle, Chris Jericho, et ça va bien fonctionner, on va bien se marrer.
Pour le coup, la victoire de Jericho à Mania, elle arrange bien la situation, je trouve, parce que si Ambrose se battait contre un Jericho perdant lui-même, étant un perdant, ouais, de WrestleMania, ça ferait un peu descente. Enfin, ça aurait moins peut-être,
ouais,
ça rajoute un poil de
Jericho,
prestige.
Jericho, il a quand même des arguments. Légende, on va dire, à vendre. Mais,
oui, il nous le rappelle suffisamment.
Il nous le rappelle
fois,
suffisamment. Donc, je pense que. Enfin, ça va, parce que. Mais bon, au final, ils ont aussi fait le bon choix après, en parallèle, pour mettre AJ Styles sur les bons rails en le faisant battre Sami Zayn dans un beau match. Donc, bon, ils s'en sortent bien, mais. Bon, on va rester sur le show.
Je vais passer. À part si vous avez un autre truc à dire là-dessus.
Non, jusqu'à la masteriser cette séquence.
Il a masterisé. on va passer donc au main event. Le match Roman Reigns contre Roman Reigns et Bray Wyatt. Je suis en train de taper sur ma table. J'espère que ça ne sera pas.
Alors attends, mais excuse-moi, mais moi, qui contrairement à jusqu'à les prix des notes, j'ai noté qu'il y a eu un match d'Apollo Crews avant le main event.
Ah mon dieu, j'ai zappé le match d'Apollo Crews.
Alors Apollo Crews.
Oh mon dieu.
Et juste avant, une séquence backstage où le Dr. Phil se retrouve face à Goldust et Artruth qui se chamaillent.
Ah ouais, mais alors ça, limite, même si je l'avais vu, je sais pas si je l'aurais noté, quoi. Mais il y en a marre, il y en a juste marre de ces segments avec Goldust et
Ah ouais, pardon, je viens carrément de t'énerver là, tu viens de te faire descendre de ton petit nuage de AJ Styles versus Sami Zayn.
Non mais c'est vrai que quand on passe un beau moment, on a tendance à supprimer ces petits tu sais ces petites bosses sur la route. mais donc ouais, non, mais si tu veux, donc ouais, je me souviens à peine de la promo de Goldust et R-Truth. Je sais pas ce qu'ils ont raconté, ils étaient encore en chamaillerie.
Ils chamaillent, Dr. Phil débarque, qui s'apprête à dire quelque chose et il voit que ça a l'air d'être deux cas bien désespérés en face de lui. Et donc bah, il s'en va. Voilà, classique. Et après, on a le match à Apollo Crews.
Voilà. Et il était contre
Adam Rose.
Ah voilà, oui.
Le social outcast.
Je viens de m'en souvenir. Parce que justement, je me suis dit, mince, il donne un match un contre un à Adam Rose. The Radical Mangoose, hein. Comment...
Ouais, j'ai toujours pas compris le surnom, mais.
Moi non plus. J'ai même pas essayé de le traduire.
J'ai toujours pas compris Adam Rose. Donc.
Mais personne.
Mangoose radical, ouais.
Personne ne comprend Adam Rose, même Adam Rose. Et en plus, il a eu tellement de tentatives de gimmicks différentes et de mélanger ses gimmicks, etc. Maintenant, ça veut plus rien dire. Il essaie à moitié de faire des blagues, mais en même temps, c'est un méchant. Mais en même temps, il est censé être au départ un catcheur très athlétique, mais maintenant, il fait des trucs de heel ou en ralentissant les matchs. Enfin, c'est. Je pense vraiment qu'il sait plus ce qu'il fait, hein, Adam Rose.
Mais il a pris le rôle de l'ancienne division Diva à lui tout seul. S'il faut quelqu'un de drôle, il sera drôle. S'il faut qu'il soit heel, il sera heel, etc.
Donc oui, c'est. Par contre, je me souviens que c'est Apollo Crews qui gagne qui fait une nouvelle fois son. Merde, comment il s'appelle sa prise à 8 tournoi avant de.
Je ne saurais pas te dire le nom du finisher, je ne l'ai pas. Parce que moi, je ne le connaissais pas déjà avant qu'il arrive.
Mais de toute façon, la leçon de la semaine, c'est que Apollo Crews en est au même point que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il fait des squash matchs contre des jobbers et ouais.
Ils ne savent pas encore. Ils vont comme ça pendant quelques semaines,
j'imagine. Ouais, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont en faire. Et j'ai un peu peur qu'ils se retrouvent, comme je le disais, sur le forum de Cahiers du Catch. j'ai un peu peur qu'ils se retrouvent dans la même position que Neville, parce qu'il a un peu profil, hein, quoi.
Ce que j'allais dire, hein, c'est clairement, mais à mon avis, il est un peu là aussi pour ça, hein, parce que l'autre est sur le flanc, donc ils ont saisi l'opportunité pour le faire monter maintenant, mais pour l'instant, il semble prendre une trajectoire assez similaire, à l'exception qu'il est beaucoup plus costaud, donc du coup, ils ont plutôt opté pour l'option, on va le faire squasher tous les jobbers du roster. Mmh. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours du mal à m'enthousiasmer et à m'intéresser vraiment à un mec que je connaissais pas. Hein. Généralement quand il y a un petit nouveau qui arrive, j'essaye de voir un peu ce qu'il vaut, me renseigner et tout, mais ça donne pas trop envie pour le moment parce que bon, évidemment il est super athlétique, hein. C'est impressionnant ce qu'il fait par rapport à son physique, mais ça suffit pas pour me dire waouh, j'ai envie d'en voir plus, quoi, parce que pour le moment bon bah voilà, il a explosé Adam Rose. D'ailleurs, je sais même plus du coup qui est-ce qu'il a explosé la semaine dernière. Mais
la semaine dernière.
Et Tyler Breeze.
Tyler Breeze. Mais bon, voilà. Enfin, ça veut tout dire, quoi. C'est juste que son match, on n'y prête pas beaucoup attention parce que on s'en fout un peu, quoi.
J'ai une petite, larme qui coule pour Tyler Breeze parce que c'était
décidément j'arrête pas de te faire pleurer depuis tout à l'heure, hein.
Exactement. Non mais parce que j'ai moi alors je sais pas si c'est je pense que c'est même pas à cause du documentaire Breaking Ground que j'étais déjà attaché au mec avant de voir le documentaire, ouais. Mais je pense
regardez vraiment... Breaking Ground, c'est super, c'est vraiment génial. Pour vous attacher au catcheur, amortir son abonnement et voilà, c'est une bonne façon de s'attacher à tous ces catcheurs qui arrivent là, hein. quand American Alpha va débarquer Arrow, bah voilà, faut savoir d'où ils viennent les mecs, et Breaking Run c'est vraiment
voilà,
c'est vraiment super pour ça quoi.
Et d'ailleurs les t-shirts American Alpha sont arrivés. Et
chez toi?
Et j'aurai le non pas encore chez moi. Ben non, justement parce que apparemment ils sont disponibles que mi-avril. Mais donc voilà, pour tous les fans de Jordan et Gable, et je pense qu'il y en a de plus en plus. N'hésitez pas sur l'Euroshop. On
du
en
coup,
était
le
où?
main event.
Voilà, le main event. Vous
Alors
devez
juste
rien
avant
dire sur le
et avant le main event,
sur le
il y a
cruise.
eu une promo
Ah
du
oui.
nouveau gimmick des Matadores.
Ouais, ça j'ai, ouais,
La
je crois
vache,
que je l'avais pas vu,
portoricain.
ouais.
Quelque chose me dit que ça a été coupé
Dans la
dans la
version
vidéo que j'ai vue.
D'accord. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, mais voilà.
Ouais,
C'est pas,
quand
est-ce
ils
que c'est le
seront
truc
vraiment
de
là.
la plage là?
Oui, voilà, oui,
Ah
c'est ça.
oui, si je l'ai vu, si je l'avais déjà vu en fait. Mais ouais, j'ai pas encore trop capté. Ça m'avait pas l'air. Ça m'avait l'air fandango-esque. Mais donc le match principal, Reigns et Bray Wyatt contre Del Rio et Sheamus. Donc le match, j'ai pas énormément de notes dessus, à part que Bray Wyatt a monopolisé la tag team, donc avec Reigns en fait, il voulait pas le taguer pendant très très longtemps. Et il s'est plutôt bien débrouillé, je trouvais que vraiment, enfin, c'est un mec. Je vais pas dire qu'on le critique énormément parce que ça reste quand même un chouchou du public, mais Bray Wyatt, au niveau, on parle jamais de sa présence dans le ring, à part quand il est au micro. Mais même s'il fait pas, il a pas un moveset de fou, il a vraiment un impact. Il sait vraiment bien mener un match, quoi, Bray Wyatt. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et donc, oui, il finit le match. Enfin, il tag Reigns pendant un petit temps. Ensuite, Reigns le retag juste avant la fin. Et il réussit à caser un Sister Abigail sur Del Rio. Donc voilà. Et entre-temps, ah oui, et juste à la fin, au moment où il case son Sister Abigail. Abigail, Reigns fait un spear sur Sheamus qui tentait d'intervenir.
Très beau spire d'ailleurs.
Voilà, pour une fois.
Ouais, très bien filmé.
Non
Ouais.
mais alors pour une fois, il était voilà, il était bien amené ce spear, contrairement à la majorité des spears de Reigns qui sont un peu gratuits. Et au même
Gratuit.
moment. Non mais
Parce que
gratuit dans
tu
le sens.
préférais qu'il fasse payer, c'est ça?
Non mais
Le mec est déjà pas assez détesté
dans le
comme ça,
sens où
t'aurais pu le payer lui
le mec
pour.
il est censé avoir le spear comme finisher. Bon déjà c'est pas la plus grande nouveauté, mais en plus je trouve qu'il l'utilise vraiment trop souvent quoi.
T'as raison, plus de Superman Punch.
Voilà.
Oui, s'il vous plaît.
C'est triste si tu arrives pas à me souvenir d'un troisième truc qu'il a. À part peut-être le coup
C'est le Samoan Drop.
ouais, alors c'est pas à lui ça.
Ah bah non, mais bon,
Mais
Aspire non plus à ce moment-là.
ouais. Ah oui, et donc ce que j'ai pas précisé, c'est aussi qu'on avait les deux autres Wyatt disponibles, puisque Luke Harper est
Toujours blessé.
toujours blessé. Donc Eric Rowan et Braun Strowman sont apparus sur le côté aussi pour s'occuper de Rusev juste avant la fin. Ils lui ont bien balancé d'ailleurs dans un dans... Merde, l'endroit où il y a la cloche, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, c'est derrière les barricades avec le gardien, le timekeeper, là, enfin le mec qui gère le temps et tout.
Par-dessus la barricade!
Pardon.
Donc voilà, un plutôt bon match. J'ai bien aimé. Le finish était sympa parce que pour le coup, ils ont laissé Bray Wyatt faire un tombé clean. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que ouais, Bray
Du coup,
Wyatt,
tout est remis
il
en question.
vient.
Bray Wyatt fait un tombé clean. Tout est remis en question.
Ah bah là, c'est l'univers qui se retourne là. Ouais.
Et dans la promo juste avant, en plus, parce que j'en ai pas parlé, j'arrête pas de faire des allers-retours, désolé. Mais dans la promo juste avant des Wyatt, Bray disait vous allez voir. En clair, il avait un discours qui était pas très, qui était un peu, il devient maintenant mystérieux mais pas menaçant quoi. Donc il y avait pas vraiment de Ouais, il n'y avait pas vraiment d'aspect maléfique dans sa promo. Donc
Ouais, non, mais c'est ça, il
je
y
me
a.
demande ce qu'ils vont faire parce que ça va être quand même super difficile de faire Bray Wyatt en face. Mais bon.
Bah, je suis pas sûr que ce soit si compliqué. Bon, déjà, le public, il l'a déjà, hein, donc ça peut aller vite. Après, il y a manifestement eu, comme tu le dis, il y a eu un switch, hein. Cette semaine, ils ont décidé de prendre une nouvelle direction, je pense, avec Wyatt. Et je pense qu'on va avoir le droit, enfin, à mon avis, à quelque chose qui se rapprochait un petit peu plus de la fin du Shield, à savoir, bah, c'est un peu, ça va être un groupe qui va intervenir un peu à droite à gauche, mais sans forcément, voilà, ce côté très heel maléfique qu'il pouvait y avoir avec des intentions clairement à l'encontre des faces. Je pense que ça, voilà, ça va être un groupe un peu indépendant avec sa propre morale. Qui du coup pourra aider aussi bien, à mon avis, vont aider plus des gentils maintenant que des méchants, mais du coup qui ce sera pas incompatible avec le fait d'aider des gentils, parce que justement ils sont complètement détachés, ils sont dans leur monde, c'est un peu voilà, les gars ils traînent dans les coulisses, ils peuvent intervenir, apparaître à n'importe quel moment avec leur gimmick là de l'écran qui clignote, et puis d'un seul coup ils sont là. Je pense que c'est assez compatible avec un truc un peu entre les deux, genre tweener un peu badass, qui peut être genre le redresseur de Thor, sorte de mix entre Sting un peu, et puis une stable heel. Je pense que ça peut être assez intéressant, et du coup voir cette sorte d'alliance un peu. D'ailleurs, il le dit dans sa promo avant le match, hein, Bray Wyatt, il dit, écoute, là, Reigns, tu peux compter sur moi, je vais te sauver les miches, parce que on a, ils disent en anglais là, on a un bond tous les deux, mais en fait on a une sorte de promesse, de lien qui nous lie, parce que voilà, la League of Nations nous a cassé les couilles à tous les deux, donc on va leur régler leur compte, mais ça veut pas pour autant dire que je suis ton pote. C'est voilà, il y a ce côté un peu moral, un peu mystique, qui je pense n'est pas incompatible avec une gimmick face, mais qui sera pas vraiment face, quoi. Ils seront toujours, voilà, une sorte de force qui rôde, indépendante. Et c'est pas mal, je trouve, c'est sympa.
D'ailleurs, il a appelé un moment, on voit dans le match Bray Wyatt, il regarde le public et il essaie de faire monter sa pop et tout, enfin, le genre de truc qu'on n'aurait pas trouvé avant.
Non, 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 exactement, non, mais enfin, il y a clairement eu un virage là, donc du coup il y a un changement, il y a un changement de gimmick de son côté, et du côté de la Wyatt Family, qui peut être vraiment vraiment sympa à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, je pense.
Ah, Jessica, tu m'as trop vendu le truc là. Vraiment.
Non, mais vous allez voir, ça va être cool. Et puis bon, bah sinon, après, bon, sur le match, hein, tu l'as dit, Hank, en effet, hein, il n'y avait pas de quoi prendre beaucoup de notes, hein. C'était relativement standard, match tag team, enfin le prototype des matchs tag team avec de main event avec des stars les unes avec les autres et pas de vraies équipes. Donc des séquences de heel classiques au sol, pas grand chose à retenir. Moi j'ai bien aimé le finish, voilà, le finish était super cool.
Et ils ont bien géré aussi un peu pour préserver Reigns, ils ont bien géré le
Ouais.
truc pour mettre Wyatt en avant qui a fait les trois quarts du match et Reigns
Ouais,
qui
non,
est juste là pour
c'était
accompagner.
vraiment super positif, hein. Et puis la victoire de Wyatt, je pense que c'est vraiment, enfin ça a clôturé un show qui était vraiment de très bonne qualité en termes d'écriture, parce que il faut lui faire gagner des matchs,
Et
quoi, c'est pas possible.
ils ont réussi ce quasi miracle d'avoir un public debout
Ouais.
applaudissant à une victoire de Reigns.
C'est ça. Donc
C'était un peu le but du truc.
c'est bien joué à tous les niveaux, ouais.
Donc voilà, si vous avez d'autres choses à dire là-dessus, sinon.
Non, non, c'est vrai que c'était un super show du début à la fin, donc le main event compris. Voilà, beaucoup de promesses avec tout ce dont on vient de parler. Beaucoup de petits ajustements qui étaient finalement, ça tient à pas grand-chose, tu vois, et puis ça remet tout le monde sur les bonnes rails et tout le monde accroche, donc ça c'est plutôt positif.
Et maintenant, on passe au moment que, chers auditeurs, vous attendez tous.
Bah nous aussi on se
Pas
demande ce que c'est.
encore. C'est tout ça. Mais non, c'est tout simplement la note. Parce que chaque semaine, nous donnons une note comme de bons professeurs d'école. Nous sommes. Donc chacun donne sa note oro de la semaine. Moi, je donnerais un bon 4 sur 5. Ah oui, c'est sur 5, je précise. Ah oui, le barème Meltzer, hein, bien sûr.
Est-ce qu'on peut avoir chacun notre barème B+, sur 20, alors, en pourcentage
4 Twingo sur 5 Ferrari. Non, ouais, 4 étoiles parce que franchement, je pense que ça aurait été, c'est la première fois. Si j'essaye d'imaginer des notes pour tous les rogues que j'ai vus cette année, c'est vraiment la première fois où je mets plus que la moyenne, je pense, parce que on est, enfin non, la semaine dernière aussi était un bon ro, mais là on a eu un ro qui a avancé des storylines tout le temps, genre toutes. Quasiment tous les matchs avaient un intérêt.
Sauf Apollo Crews, c'est
ouais,
tout.
Sauf Apollo Crews, c'est pour ça que j'ai oublié. mais oui, on a eu une avancée sur Zayn, du coup, qui finalement va retourner avec Owens, mais qui a eu sa chance. On a eu une avancée sur comment bah les tag teams du coup que vont faire les tag teams, on sait déjà qu'il y a des matchs de programmés. À mon avis, le reste des matchs du moins
ouais,
le premier tour, ouais. Ouais, voilà, le premier tour ça va se finir à SmackDown.
Ouais, ils l'ont dit, je crois.
Et qu'est-ce qu'on a, ouais, on a Jericho Ambrose de confirmer, etc. Enfin bref, on a plein de rivalités de confirmer, des bonnes rivalités, pas trop d'incohérences. Des bons matchs de prévus pour Payback, alors qu'on est encore à combien, 3 semaines, au moins 3 semaines je pense,
ouais, ouais.
De Payback, donc voilà, et un Payback qui s'annonce bon, c'est incroyable.
Bah, la carte fait plaisir, ouais.
Du coup ça fait peur, non, une bonne road comme ça, alors.
Ouais. Si la...
Je sais pas comment réagir.
Le dicton des fans de la WWE, si la road est bonne, le pay-per-view est mauvais,
ouais, attention,
et l'inverse. L'inverse est valable. Pour WrestleMania, c'était moyen. La road était mauvaise et le WrestleMania était moyen.
On pourra en discuter. Faudra peut-être faire
un spécial. Faudrait faire un spécial.
Ça se discute, comme disait un certain Jean-Luc Delarue. Ouais. Bah, du coup, je passe la parole à Irem.
Ok, donc, alors une petite note sur 5, et ben moi je vais être encore plus enthousiaste que toi. Je vais donner un 4,25, c'est comme ça qu'on dit du coup.
4,25, ouais, c'est ça.
4,25, parce que voilà, moi franchement, ça faisait longtemps que. Franchement, je regardais plus les RAW. En plus, comme il y avait plus d'obligation de faire d'analyse pour chaque RAW, il y avait encore moins de raisons de regarder les RAW.
Les coulisses des CDC.
Là, je me suis pris au jeu. J'ai regardé le RAW de la semaine dernière. J'ai regardé ce RAW-là. Et franchement, bah.
Bien tombé.
Ouais, je suis bien tombé. On pardonne l'incohérence, on va dire, de cette histoire de Shane qui est aux manettes.
Ouais.
Ok, bon là c'est parce que voilà, tout le monde, et c'est trending topic sur Twitter, donc j'imagine très bien Vince McMahon regarder ce qui se passe sur Twitter avec tous ses followers et se dire que Shane est populaire, donc il va gérer Raw. Bon, on pardonne ces petites on va dire ficelles scénaristiques un peu bilanes, mais bon. Vu le résultat, on va pas se plaindre. Franchement, on a tout eu. Comme tu dis, on a eu des histoires qui ont avancé. Il y a eu du suspense avec des matchs pour des first contenders. Le retour du tournoi, qui est un format qu'on voit trop peu à la WWE. Voilà, donc ça fait plaisir aussi. Les petits nouveaux qui sont confirmés, qu'on monte bien, avec notamment Amore et Cassidy. Qui vont voilà affronter les Dudley, ça c'est très bon.
Cassidy,
Big Cass.
Ouais, on va se contenter de Big Cass.
Dit Big Cass. Un match de championnat, des nouveaux qui arrivent. Un super, des super matchs avec AJ Styles contre Sami Zayn. Enfin, franchement, il y a tout eu. Les scènes backstage étaient bien, voilà, c'était bien réparti. Franchement, tout le monde a plutôt bien joué sa partition. Voilà, donc c'est très très encourageant et rien que pour ça, voilà, je mets mon petit 4,25.
Bon, Bah écoute, moi c'est pareil, tu m'as piqué ma note, je suis un peu vénère, mais je voulais mettre 4,25 aussi, 4,25, je monterais pas plus haut parce qu'il y avait des petits problèmes à droite à gauche, mais en effet je reprends une partie de ta conclusion quand tu dis que bah, on excuse sans problème les petites incohérences et cette histoire de Shane, parce que bah, finalement s'il nous book des rôles comme ça, bah, il peut revenir toutes les semaines, hein, je m'en fiche. Donc il y a pas de souci, on excuse sans problème les petites erreurs quand on a une telle qualité d'écriture, parce que vraiment bah voilà, hein, de toute façon, bah, vous l'avez déjà dit, hein, mais ça fait plaisir de voir une émission où tous les matchs ont un intérêt. Ont une, enfin déjà ont une raison d'être et un enjeu, donc il y a vraiment les deux, donc ça c'est super. Bon, sauf Apollo Crews contre Adam Rose, mais bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça, tout le monde peut pas en avoir, hein. Et puis bah du coup on a une carte de payback qui s'annonce assez sexy, en effet, donc du coup voilà, moi j'ai adoré ce Raw. Il y a eu quand même un super match pour le titre des filles, deux énormes matchs de plus d'un quart d'heure les deux, là, Cesaro Owens et Styles Zayn. Enfin, c'était presque, on avait presque une carte de pay-per-view sur l'Euro, avec en plus à côté de ça des développements scénaristiques, des segments backstage, des vannes, des blagues, des trucs. Enfin, c'était top. Moi, j'ai passé un super Euro. Je suis en effet, comme tu dis, Yarem, très enthousiaste et ça donne envie de voir la suite. Donc c'est top.
Et je finis par une dernière séquence que je ne vous ai pas annoncée, qui est ma question à la con de la semaine.
L'entourloupe.
Ma question à la con de la semaine, c'est quelle sera la prochaine excuse pour avoir Shane McMahon comme GM lundi prochain à Raw? Alors, moi, je suppute.
Ah mais toi t'as préparé ta réponse,
Ah
enfoiré.
non, j'ai pas préparé, hein, j'ai pas du tout préparé ça, hein, c'est totalement sur le fil. Non, non, je suppute juste que Vince est parti en vacances. C'est tout. Il est parti en vacances et juste il reviendra
Quand tu
Quand
reviendras,
Shane, non, quand Shane se gaufrera, parce que voilà, il va bien sûr, enfin, il va bien entendu se gaufrer un jour, d'après son père. Donc voilà, quasiment la même excuse que cette semaine, quoi.
Ah bah c'était rigolo cette semaine, hein, le coup de. Enfin, moi j'ai trouvé ça marrant, ça m'a fait rire. Parce que du coup, depuis que je sais que la WWE est à l'écoute de ses followers sur Twitter, je n'arrête pas de tweeter pour Cena, retour de Cena dans la
Déjà, tu t'es
Titan Picture.
inscrit sur Twitter,
Évidemment, je
déjà.
suis inscrit sur Twitter pour maintenant militer pour que Cena revienne et soit directement pour un match pour le titre. Mais bon,
La C-Nation est
on
en
verra,
force.
on verra si ça marche. Non, bah du coup, une excuse pour que Shane soit de retour encore la semaine prochaine. Et ben, qu'est-ce que ça pourrait être? Les réseaux sociaux, ils l'ont déjà fait. Le coup de l'absence, ça pourrait être un bon truc, ou alors peut-être on pourrait imaginer, pourquoi pas, un plébiscite des catcheurs qui disent ouais putain c'est super, genre on pourrait voir toute la cohorte de NXT, parce que finalement il y en a un paquet qui ont débuté entre la semaine dernière et cette semaine, bah, la cohorte de NXT qui dit ouais nous on kiffe, Shane il reste, machin, pourquoi pas, je sais pas d'autres pas d'autres idées forcément, on verra ce qu'ils vont nous pondre.
Ouais, alors effectivement, peu importe la raison, si c'est parce que Vince McMahon a oublié son passeport ou je sais pas son billet d'avion avant
Il est
de voilà,
coincé.
c'est ça,
Il
il
est
sait
coincé
rien où
avec
il
les
était.
Colons aux Caraïbes là, sur les dans
C'est
les
ça, du
vignettes.
coup. C'est ça, le mec, là, il est en vacances. Mais qui dit qu'il est en vacances? Ben voilà, la semaine d'après, effectivement, il n'a pas pu venir parce que voilà, il est coincé, ses bagages ont été envoyés ailleurs. Donc il est à la recherche de ses bagages. Hein. Donc si vous avez repéré les bagages de Vince McMahon, merci de nous contacter. On fera suivre. Pendant ce temps-là, Shane reste aux manettes. Hein.
Ou
Donc.
alors on a une battle des GM entre Triple H et Shane. Mais alors là, je sais pas comment il
Ouais,
pourrait le faire ça, mais.
je pense que c'est pas pour tout de suite, mais à mon avis, à terme, l'idée, je pense que ça va être en effet de lui sauter dessus à la première foirade, et puis il va y avoir une feu d'autorité, je pense,
Bien sûr.
Mais c'est, ouais, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, profitons pour le moment, puisque ça se passe très très bien sous ce nouveau commandement.
Ok.
Et à croire qu'ils ont fait exprès de faire de la merde avant pour que du coup on se dise, ouah, mais Shane, c'est vraiment un génie.
Mais ouais, ils arrêtaient pas de nous répéter, et vous regardez de la merde et vous aimez ça. Enfin bon, c'était le premier épisode de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. Aujourd'hui, j'étais Hank, j'étais autant en compagnie.
J'étais, je fus.
Je change
d'identité régulièrement.
Je suis, yes oui, Hank. Et j'étais accompagné de Yerem. Donc, merci Yerem.
Bah, de rien, c'était un plaisir d'être les premiers à faire partie de ce premier numéro.
Et j'étais accompagné de Giscol.
Bah, merci également. Je suis content d'avoir été le premier expert. J'insiste sur expert pour ce podcast qui j'espère va continuer.
Et ça continuera donc normalement toutes les semaines, publié aux alentours du vendredi ou du samedi sur les cahiers du catch. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. À bientôt.
Ciao.